prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique du sermon sur la montagne. 13e partie, trésor dans le ciel.
Voilà. Bonsoir à tous. Nous allons retourner dans un sujet que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises. On va retourner vers ce beau message qui était donné par Jésus en primeur dans son ministère, c'est le sermon sur la montagne. Alors donc, on avait déjà donné pas mal de commentaires sur ce texte, et puis il restait encore quelques éléments dont nous allons voir ce soir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et nous allons compléter cela, et ça fera finalement, eh bien là, toute une étude complète de ce sermon sur la montagne, parce que c'est fondamental, c'est essentiel. Alors, je vous rappelle, Matthieu chapitre 6, verset 16, où Jésus enseigne, et il dit ces paroles. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Nous continuerons dans le cours de ce message et on ira un petit peu plus loin après. Ce que nous pouvons remarquer dans ces enseignements de ce chapitre 6, c'est que la foi, ou entendez par là peut-être une autre expression, la piété, est envisagée dans ses manifestations extérieures, sous la forme soit de l'aumône. Chapitre 6, verset 2. « Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. » C'est aussi envisagé comme sa forme extérieure, audible, qui est la prière. Verset 5 et la suite. « Ne multipliez pas de vaines paroles parce qu'ils comme font les païens, parce qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et maintenant, il est question du jeûne. Et j'aimerais à cet effet relire tout simplement le verset 16 dans un premier temps, où Jésus précise, il dit, écoutez bien la première parole, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne laissez pas l'impression aux autres que par votre activité de jeûne, de prière, eh bien vous êtes l'homme le plus malheureux de la terre. Comme les hypocrites, et il donnera le descriptif de ce qu'ils font, ils se rendent le visage tout défait pour montrer, dans l'intention de montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Et Jésus de répondre tout simplement, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Parce qu'il semblerait que s'il y a des requins humains qui se tournent vers eux et va les complimenter en disant, ce sont des hommes merveilleux, formidables de piété, eh bien à ce moment-là, le regard de Dieu se détourne. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir que Dieu nous voit et nous entend, plus que les hommes ne sauraient le faire. Alors voici une mise en garde claire, contre les activités, contre les actes de piété dont Jésus va donner tout de suite le sens lorsqu'ils sont faits avec des mobiles égoïstes et hypocrites. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Et ce ne sont pas des hommes de Dieu qui le disent, mais c'est Jésus lui-même. Il dit, mais si c'est accompli dans cette intention avec, ça ne se dit pas au prix, a priori, mais si c'est accompli avec, finalement, dans notre esprit, eh bien ce but à atteindre, ben, ça ne sert à rien. Pour Dieu, Jésus nous le souligne, cela n'a aucune valeur réelle. Pour bien comprendre les choses, la loi de Moïse prévoyait dans les livres premier livre de la Bible, un jour de jeûne par an, celui des expiations. Vous retrouverez la référence, je la cite tout simplement pour mémoire, Lévitique, chapitre 23, de 26 à 27, où là, eh bien, le peuple d'Israël était convié, était sollicité à mettre ce jour dans le jeûne, et dans un cadre tout à fait particulier, le fait des expiations. À souligner que c'était un jeûne d'activité, de cessation d'ouvrage. Si l'on se tourne vers le Nouveau Testament, eh bien, le jeûne présenté ne s'appuie, écoutez bien, sur aucun commandement particulier à caractère légal. Dans l'Ancien Testament, oui, un jour à part dans le contexte des expiations. Mais là, il n'y a absolument rien qui revêt un caractère d'obligation. D'ailleurs, le premier mot que j'ai voulu souligner, quand Jésus dit « lorsque », supposons « si vous avez le désir de jeûner ». Alors, le jeûne n'y est jamais ordonné. Et nous le voyons d'ailleurs dans bien des situations qui nous sont présentées. Il est laissé, il est laissé à la conscience de chacun. D'ailleurs, Jésus le dira quand on viendra le questionner et qu'à ce moment-là, les disciples de Jean-Baptiste diront « Mais tes disciples ne jeûnent pas, Jésus ?» Il dira « Mais écoutez, tant que l'époux est là, eh bien, voilà, ils profitent de l'époux. Peut-être des jours viendront plus tard où ils jeûneront. » Mais nous voyons que les choses nous sont présentées de cette manière. Et Jésus veut souligner une chose qui a revêtu et qui revêt maintenant dans le Nouveau Testament une autre dimension. Dans l'Ancien Testament, on pouvait le comprendre. Dimension peut-être beaucoup plus, l'accent mis sur le corps, sur la vie matérielle. Et nous voyons que l'essentiel dans ce que nous pouvons comprendre n'est pas le corps et sa mortification, ce qui existait aussi dans certaines choses dans le Nouveau Testament, mais l'âme courbée est tenue dans l'humiliation afin, et ça c'est important, écoutez bien, afin que l'esprit en sorte le maître et ne se laisse pas dominer par la chair. Voilà. Le but primordial, c'est véritablement dans cette démarche, comme Jésus veut le souligner, n'est pas du « m'as-tu vu ?»« M'as-tu entendu ? M'as-tu remarqué ? La piété qui est la mienne ?» Hein ? Mais finalement, il y a là une démarche qui va atteindre beaucoup plus la profondeur humaine, c'est-à-dire l'âme. Je l'ai dit, hein, dans ce maintien d'humiliation, d'humilité, afin qu'à ce moment-là, l'esprit reprenne sa véritable place sur l'âme, sur nos sentiments, le cœur et sur notre corps. Et ça change tout, naturellement. Joël, le prophète, un des derniers prophètes de l'Ancienne Alliance, nous le fait entendre d'une manière tout à fait sensible, et il dira ceci au chapitre 2 et au verset 12 et 13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Donc avant tout, ce n'est pas une démonstration extérieure, c'est le cœur qui parle. « Avec des jeûnes, bien sûr, avec des pleurs et des lamentations, et déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. » Parce qu'en Israël, il y avait cette habitude où, dans un mouvement de conscience, peut-être, de protestation contre le mal, eh bien, ils mettaient en pièces leurs vêtements. Ils prenaient la cendre, le sac, et ils mettaient en pièces leurs vêtements. Et Dieu dit, mais bon, vous pouvez bien déchirer tous les vêtements que vous voudrez si finalement, à l'intérieur, tout ça, tout l'accent était mis sur l'extérieur, finalement. Et ça donnait, finalement, eh bien, peut-être l'illusion qu'il y avait une véritable repentance. Alors, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et il est miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté. Et ça, je crois que c'est quelque chose, donc, quand même d'assez important de savoir la démarche que Jésus veut souligner. Ce jeûne-là n'est en rien une conquête ou une démonstration pour s'enorgueillir en laissant apparaître à autrui que l'on jeûne pour impressionner. Ouais. Et vous savez, ce qui est assez curieux, et vous le savez certainement comme moi, c'est que le jeûne, l'activité du jeûne, n'est pas le propre au christianisme. Et il y a certainement dans d'autres religions des gens qui jeûnent peut-être encore plus que les chrétiens. Mais ça pose une question de mise en contact. Alors quand on reste dans l'esprit de la Bible, quand on reste dans l'esprit que nous enseigne Jésus, avec ce que je vais ajouter d'ici quelques instants, ce que nous avons déjà vu, je dis qu'il n'y a aucun danger. Mais dans d'autres dimensions qui n'ont rien à voir avec le christianisme, l'esprit de l'Évangile, alors à ce moment-là, on peut rentrer en relation avec tout autre, au pluriel, qu'avec Dieu. Il faut faire attention. Si véritablement ce contact est dans la doctrine biblique, si elle est dans l'esprit que Dieu et Jésus nous ont enseigné, merci Seigneur, pas de problème. Mais quelles sont les motivations au regard des autres? Quelles sont les intentions qui sont au fond de notre cœur, d'une recherche ou d'une prétendue puissance, pouvoir, don et autre chose? Alors à ce moment-là, il faut être très prudent, il faut véritablement vérifier si nous marchons dans le chemin que le Seigneur nous a tracé. Parce que il peut y avoir des retours, il peut y avoir des réceptions même. Mais de quelle nature? Et dans quel but? Et on en reparlera à la fin de notre message. Qui servons-nous? Qui servons-nous? Donc il faut faire attention, parce que c'est souvent lorsque les gens sont dans l'humiliation, sont en déficit de force, dû peut-être à l'absence de nourriture ou d'autre chose, ou des nuits sans sommeil. Il faut bien penser que nous sommes dans une enveloppe, nous sommes dans un réceptacle, notre corporalité, et c'est souvent dans notre fragilité qu'il peut y avoir des intrusions, qu'il peut y avoir des coups de force de l'ennemi pour s'emparer et nous amener à la confusion, nous amener à toutes sortes de choses. D'ailleurs, cette méthode a été depuis des lustres expérimentée lorsque l'on veut soumettre des hommes, des prisonniers que l'on veut calmer, ou tout simplement des adeptes à des sectes que l'on veut diriger. Vous les mettez en sous énergie, et vous allez en faire tout ce que vous voulez. Donc, attention, il faut rester dans ce que Jésus nous dit. Et là, Jésus met certainement les choses en évidence, parce qu'il avait devant lui le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avec ses démonstrations ostentatoires d'aumônes, de prières au coin des rues, et puis de jeûnes. Et je vous dirai qu'en Israël, rien n'a changé. Si vous y allez, vous verrez que rien n'a changé. Dans les rues, et puis toutes sortes de choses semblables. Alors, vous savez, le jeûne, Jésus nous laisse en dente, ça ne se voit ni se dit. Je vous dis, on l'entend quelquefois dans les églises, surtout, je vous demande de grâce, s'il vous arrive de jeûner, et quand vous jeûnez, n'allez pas le crier sur les toits. N'allez pas dire, vous savez, moi, je jeûne. Parce que vous perdez déjà le bénéfice de votre démarche. On ne le dit pas. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, finalement, eh bien là, allait faire le contraire, neutraliser l'action. Parce que s'il y a quelque chose de tout à fait particulier dans le jeûne, c'est qu'il nous met en rapport avec Dieu. Et Jésus le recommandera d'ailleurs. Tu rentres dans un endroit, tu es tranquille, dans le silence. Tu fermes ta porte et tu pries ton père qui est dans le secret. Mais ce n'est pas la peine de sonner de la trompette. Ça m'est arrivé, et ça vous est certainement arrivé, quelquefois à des gens qui viennent un petit peu exaltés en disant « Mais vous savez, moi je jeûne !» Alors ça veut dire, eh bien, vous, est-ce que vous jeûnez aussi? Et puis, toutes sortes de choses comme ça. Alors, je crois qu'il faut être prudent. Il y a une règle, c'est véritablement l'humilité. Et Jésus nous dit, mais regardez un petit peu, dans le verset 16 à la fin, il se dit « Mais... ils se rendent le visage tout triste pour démontrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Alors Jésus m'a dit, mais eh bien, ils ont leur récompense. Et au verset suivant, « Mais quand tu jeûnes ?» Oui, quand tu jeûnes, alors tu parfumes ta tête et tu laves ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. C'est ça, justement. Ça, c'est quelque chose de tout à fait personnel, quelque chose d'important. Sinon, eh bien, Jésus le dit, et il dit, mais c'est une hypocrisie. Parce que ça sort du cadre dans lequel le vrai jeûne doit être exercé. Et Jésus l'a classé, et on le voit dans d'autres situations, dans d'autres enseignements, comme de la vanité religieuse. Oui, vanité religieuse. Le jeûne enseigné par Jésus est un état de cœur et d'esprit. Voilà, on va aller un peu plus loin. Et quand je dis un état de cœur, c'est que ça fait appel à nos sentiments. Et Dieu nous a donné des sentiments et nous avons à veiller de la qualité de nos sentiments. Je vais relire ce passage parce que vous le connaissez et il resitue bien les choses dans Ésaïe chapitre 58. Écoutez ce que Dieu dit. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Alors d'abord, tu détaches les chaînes de la méchanceté. Tu dénoues les liens de la servitude, tu renvoies libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Paradoxalement, le jeûne, c'est justement peut-être parfois une abstinence. Mais là, eh bien, tu fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, tu le couvres et tu ne te détournes pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu l'appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il te dira, « Me voici. » Et ça, c'est véritablement l'aboutissement normal des jeûnes. À travers le sentiment et dans un état d'esprit qui a été défini par, finalement, eh bien, le prophète Ésaïe. C'est une volonté de mise à disposition devant Dieu. Ça, on l'a compris, on est au fait de la situation. C'est une écoute du Seigneur. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Le jeûne, normalement, c'est parler dans la prière. Mais là, parfois, eh bien, c'est tout simplement eh bien, de se tenir à l'écart, loin de tous les bruits de ce monde, peut-être de pouvoir ouvrir notre Bible, de nous mettre à cette, dans ces conditions de lire, de mais le faire tranquillement, le faire paisiblement. Il n'y a pas de fébrilité. Hein. Et de pouvoir donc dire au Seigneur, comme Samuel le disait, « Parle parce que ton serviteur écoute. » Et puis, une disposition d'abandon, de mise à l'écart, volontaire, tout simplement. Ce peut être un jeûne de nourriture, ou tout simplement de boisson, mais il ne faut pas oublier que le jeûne, ça peut être aussi sous bien d'autres formes diverses et variées, dans bien d'autres domaines, qui sont laissés à l'appréciation de tous ceux qui ont bien compris ce que Jésus veut nous dire. Alors il appartient à chaque croyant de déterminer par lui-même et en lui-même s'il doit jeûner et quand il doit jeûner, soit le pourquoi et la fréquence. Ouais. Il y a peut-être des âmes qui sont plus, eh bien là, encline à peut-être aller vers cette activité. Mais est-ce qu'il y aurait une supériorité de ceci ou de cela? Ça, c'est chacun qui doit déterminer les choses. Or, Jésus, ici, nous rappelle expressément comment il doit le faire, comment le croyant doit le faire, c'est-à-dire dans sa forme, pour que le jeûne ne se transforme pas en rituel formaliste. Et c'est là où justement il y a le danger. Et en activité obligatoire, voire même dans une sorte de culpabilité ou de confusion de conscience et d'esprit. J'ai vu quelquefois des sorties de jeûne qui ressemblaient à des sorties de route, vous savez, où véritablement, eh bien, c'était certainement pas positif. Compte tenu de tout ce qu'il peut y avoir d'interférences, tout ce qu'il peut y avoir de mauvaises conceptions, tout ce qu'il peut y avoir d'oubli des principes, si nous ne restons pas dans eh bien, ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous enseigne. Et quelquefois, ça peut être terrible. Ça peut être terrible. Alors, je pense que quand Jésus nous dit cela, que ce soit d'une manière ostentatoire pour se faire voir des autres, c'est une forme d'orgueil spirituel, mais il y a également d'autres aspects. Il est souligné sans ambiguïté que le pratiquer, pour se faire admirer des hommes, Jésus nous dit, c'est-à-dire le déclarer pour que, en effet, nous apparaissions aux yeux des autres spirituels, c'est une illusion, non seulement une illusion, mais un aveuglement sur soi qui trahit tout simplement l'orgueil du cœur qui s'élève, ou alors peut-être même une secrète ambition d'être le meilleur, prétention de stupide supériorité, et Jésus ne mâche pas les mots, que Jésus dénonce notamment chez les pharisiens. Voilà. Avec en accompagnement tout un rituel de nettoyage, de purification, et Jésus va leur retourner les choses d'une manière magistrale, il va leur dire, vous êtes une bande d'aveugles, vous rendez compte, non seulement des aveugles, mais des hypocrites, parce que vous voulez bien nettoyer l'extérieur, mais vous feriez bien de nettoyer l'intérieur aussi. Alors, ça c'est quelque chose qui était certainement très remarqué en Israël du temps de Jésus, où toute leur dévotion de ces pharisiens allait en direction d'eux-mêmes et de leurs admirateurs naïfs plutôt qu'à Dieu. D'ailleurs, nous l'avons lu, il est dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Dieu. Parce que le but, il est là. Les autres n'ont rien à voir dans cette affaire, mais à ton Dieu. Et c'est le plus important. Alors ça, c'est la première partie. Nous allons lire la deuxième, parce que nous allons avoir quelques versets simplement sur le sujet, pour être complet dans cette étude. Alors après, il est dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Jésus est formel. Il dit à ses disciples qui l'écoutent, « Ne vous amassez pas. » Où il est question des richesses. Là, Jésus attire notre attention sur les dangers du matérialisme. Le sujet de la possession des biens matériels, vous en conviendrez, tient une place considérable dans la vie des hommes, puisque Jésus traite la question des richesses, des biens matériels, dans pas moins de 11 paraboles. Les héritages et la convoitise de l'argent, l'égoïsme, l'accaparation des biens, etc., etc. Pour nous dire que la convoitise et les pièges de l'avoir, c'est-à-dire ce que je possède, ou ce que je désire posséder, ça c'est l'avoir. C'est pour ça qu'il y a toujours une confrontation entre l'être et l'avoir. Mais ça, il s'agit de l'avoir. Jésus est en train de nous dénoncer, finalement, là, tous les écueils qu'il y a autour de l'avoir. Donc, les pièges de l'avoir sera le sujet passionnel de tous les temps de l'histoire humaine. Que l'on prenne la plus haute antiquité jusqu'à maintenant, et on en parle, et Dieu sait si on en parle, de ce phénomène matériel, de cet engouement, de cette ruée vers l'or, à travers tout ce que les hommes sont capables de faire, de mettre en place, de déclencher, pour accaparer, pour s'approprier les richesses des autres bien souvent. Et ça devient une véritable folie. Aujourd'hui, notre monde est en train de vaciller pour savoir si, de quel côté il va tomber, économiquement, financièrement et tout cela. Mais vous savez, je voudrais vous rassurer, quand on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu des crises. Il y a eu des banqueroutes dans l'histoire des peuples. Et toutes sortes de choses. Alors bon, ça prend certainement des proportions parce que l'information est là. Mais toujours est-il que ça a été la plaie du monde. On peut dire la plaie du monde. Le Seigneur compare le problème, ce problème-là, le compare à des épines qui croissent dans les cœurs jusqu'à détruire la foi en Dieu. Et c'est bien justement le beau message de l'Évangile qui est venu faire le contrepoids de tout cela. Alors que le monde se dirige dans une direction effrénée, on pourrait dire endiablée pour acquérir, pour posséder, le message du royaume de Dieu est là pour redonner un sens. Parce que finalement, ça n'a plus de sens. Et on ne remplacera jamais Dieu par toutes les fortunes et toutes les richesses de la terre. Et naturellement, détruire la foi en Dieu. Les chrétiens ont une autre raison de vivre, ont une autre raison de mener leur vie, leur existence, et de gérer leur vie. Et tout cela entraînant naturellement pour les autres des rivalités à risque mortel entre le bon grain et l'ivraie. Parce qu'avec cette ivraie-là, on peut faire beaucoup de choses. Et elle est contaminante, cette ivraie. Parce qu'elle a un pouvoir toxique, à tel point qu'elle en a fait mourir, des hommes. Elle en a détruit des mondes, des civilisations et des sociétés. Que de sang, pour le prix de l'argent. S'il est normal et légitime de pourvoir aux besoins de l'existence, qu'un homme travaille pour nourrir sa famille, pour avoir les biens qui sont nécessaires, pour se loger, pour s'habiller, et puis comprenant bien d'autres choses qui font partie de la vie normale. Attention, nous dit Jésus, au renversement de valeur, car la subtilité est d'échapper au filet de l'amour de l'argent. Et le filet, il est sous nos pieds, en permanence. Et vous ne sortez pas dehors sans avoir des tentations ou des présentations ou des sollicitations de gagner de l'argent. Enfin bon, mis à part ceux qui sont sans travail, mais justement, peut-être cela aussi. Regarde dans une autre direction pour avoir les moyens d'avoir de l'argent. Honnête ou malhonnête. Et je crois que ça, nous avons besoin d'éveiller. Jésus en parle, et je vous l'ai dit, il en parle dans plusieurs paraboles. Et cet amour de l'argent est appâté par la cupidité qui est tapie au fond des cœurs. Et je crois que quand un chrétien a fait l'expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ, il y a une chose qu'il va véritablement réaliser, c'est la satisfaction et le contentement. Et celui qui a dit « je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », eh bien moi, nous pouvons dire qu'il tient parole. Mais c'est une question de foi, une question de confiance. J'ai confiance en lui ou j'ai confiance en autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Or, l'attachement au bien matériel donne l'impression, voire même une sorte de conviction, qui est fausse, mais une sorte de conviction qu'on peut se passer de Dieu en s'imaginant que là où les richesses ou l'argent répond à tout. Il suffit de regarder autour de nous. Vous avez des gens qui font la démonstration de leur opulence, de leur richesse, etc. Alors on les voit, ça peut certainement quelque part susciter dans ceux qui voient ce qu'ils voient chez les autres, des maisons, des voitures, les plus belles, les bateaux, tout ce que... Et aujourd'hui, les médias qui sont omniprésents dans la vie des hommes de notre temps, de notre siècle, bon, c'est dans le temps, les gens, ils restaient dans leur village, ils ne voyaient pas grand-chose. On leur racontait de bouche à oreille ce qui se passait dans la ville d'à côté. Voilà. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, vous n'avez pas une fenêtre qui s'ouvre à un moment ou à un autre sans voir ces propositions et puis cette sollicitation. On les appelle des tentations, naturellement. Enfin bon, on ne tombe pas tous dans la tentation. Je crois qu'on sait, être raisonnable avec la grâce de Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas Dieu, je peux vous dire que c'est la raison de leur vie. Quand on voit le grattage et le tirage, et les milliards et les millions qui sont brassés, parce qu'on ne se contente pas de gains nationaux, mais maintenant c'est européen. Et quand ça vous tombe sur la tête, vous savez plus où vous en êtes. C'est terrible. Alors les gens qui voient ça, ils se disent, pourquoi pas moi? C'est en fait un transfert illusoire de confiance, qui certes est une fausse confiance, on ne peut pas l'appeler autrement, qui se révolte tôt ou tard un funeste marché de dupes, savamment orchestré par le grand et malicieux marchand de rêves qui s'appelle le diable. Et Jésus nous met en garde contre lui. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si j'étais riche, si je faisais fortune, marchand de rêves. Ici, l'enseignement de Jésus offre quatre aspects, je vais les voir rapidement, qui se déclinent comme une forme de principe. Ce sont des principes importants. Le premier principe, nous le lisons, et je le relis simplement, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Tout simplement. Il est question des priorités de vie et de l'intelligence de nos choix. Vous savez que Dieu rend les hommes intelligents s'ils le veulent. Il est insensé, et tout le monde en conviendra ce soir, de se dépenser pour quelque chose qui perd sa valeur. Il y a un slogan aujourd'hui, dans notre monde qui n'existait certainement pas pour tous, mais maintenant on peut dire que c'est généralisé, c'est consommer pour consommer. Voilà. On ne consomme pas par besoin, mais on consomme tout simplement par désir, par plaisir. Parce que c'est comme ça. Et il y a des hommes et des femmes qui en sont psychologiquement malades. Ils sont accros. Ils sont addicts à la consommation ou à l'achat. Et ce sont vraiment des malades. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils rentrent dans un magasin. Et même quand ils n'ont pas, ils font crédit, tout simplement. Ils voient quelque chose dans une vitrine et ils se disent « mais c'est compulsif ». Et ils vont l'acheter, ils n'en ont pas besoin. On a vu des reportages où quelquefois certaines personnes ouvraient un petit peu leur garde-robe et on voyait soit des robes qu'elles n'avaient jamais portées, ou des femmes, et puis des chaussures qui n'avaient jamais été ouvertes, des boîtes. Hein. Mais parce que c'est comme un soulagement, c'est compulsif. Alors ça, c'est quand même quelque chose de grave. Hein. Ça, c'est notre monde aujourd'hui. Et qui plus est, c'est que souvent les gens achètent sans payer. Enfin, permettez-moi de dire, sans payer, ils vont payer, mais... Je veux dire, avec effet retard, mais avec effet et intérêt dont ils ne peuvent pas imaginer ce que ça va coûter. Il s'agit de faire, nous dit Jésus, le meilleur choix, puis le meilleur usage de nos biens, de nos forces et de nos vies pour ce qui a une réelle valeur, c'est-à-dire un trésor qui subsiste. Pour tout simplement... comme dit Jésus, celui de l'éternité. Et il va expliquer pourquoi d'ici quelques instants. Parce que si j'achète quelque chose qui disparaît, bon, ça peut me servir. Mais ce ne sont pas des vraies valeurs. C'est tout simplement, nous rappelle Jésus, le choix du permanent sur le passager et l'éphémère. Et un chrétien est un homme qui doit s'inscrire dans la permanence. Nous sommes devenus des êtres qui... Déjà, tout en étant enfermés dans le temporel, nous sommes projetés dans le permanent de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Mais celui qui, finalement, n'a pas cet enseignement ou n'en veut pas de cet enseignement, ben, il est réduit tout simplement à vivre avec le jour, tout simplement. Et il y trouve une valeur parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Parce que tout trésor, tout autre trésor, ici-bas, ne peut subsister durablement. Parce que soit nous allons le perdre lorsqu'il va se dissiper de lui-même, parce que toutes les choses que nous achetons matérielles, ben elles s'usent, comme une voiture ou autre chose, même la plus belle, elle va se dissiper d'elle-même naturellement, ou alors nous allons les perdre que lorsque nous allons mourir, tout simplement. Et on s'aperçoit que les gens font des efforts considérables pour acquérir ces biens-là qui sont passagers, et ils font encore davantage d'efforts pour les conserver. Et c'est ce que Jésus nous dit. Conservez, parce que ce sont des trésors volatiles et en péril. Jésus nous parle de teigne, il nous parle de rouille, et il nous parle de voleurs qui sont là pour guetter, pour s'en emparer, ou pour ronger. Dans le psaume 62, il nous est rappelé cette parole que je trouve pertinente, et je pense qu'elle est tout à fait à sa place. Au verset 11, il est dit ceci, « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Voilà ce qu'il nous est dit. Il y a le second principe maintenant, brièvement. Jésus nous enseigne à garder la maîtrise de nos sentiments. Le verset 21, il est très lapidaire, « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous avez remarqué que trésor rime avec cœur et vice-versa. Et il s'agit pour l'homme qui se met à l'écoute de la volonté de Dieu et des conseils de Dieu, c'est évaluer les buts véritables de la vie, car Jésus prévient qu'il y a dans ce monde l'amour du vrai que nous appellerons la vérité et l'amour du faux que l'on appelle le mensonge. qui est vrai, qui est mensonge. Ce que Dieu nous dit, c'est vrai. Maintenant, toutes les sirènes qui peuvent chanter autour de nous, à savoir. À ce titre-là, la parole de Dieu rappelle que le chrétien n'est qu'un étranger et un voyageur sur la terre et que sa destination suprême n'est pas en bas, mais en haut. C'est le sermon sur la montagne, tout cela. C'est l'essence même de ce message que l'on appelle l'évangile et qui est rappelé ce soir en condensé. L'homme de foi peut user sans abuser. C'est pas un ascète, non. Il peut user sans abuser de tout ce que Dieu a créé de bon. Quand c'est mauvais, on ne va pas le prendre, mais de bon. Et cela en le reconnaissant comme le donateur, c'est-à-dire dans un esprit de reconnaissance. C'est pourquoi il ne nous est pas seulement demandé de prier, mais de louer le Seigneur, de lui apporter des actions de grâce. C'est un équilibre. Ouais. Et ça, je crois que nous avons besoin. Et quand un chrétien ne sait plus remercier le Seigneur, il n'est pas loin de perdre pied. Parce qu'à un moment donné, il va dire, mais moi, j'ai plus besoin de Dieu. Je me suis fait à moi-même, mon intelligence, ma sagesse, mon travail, etc. Il faut toujours remercier le Seigneur, dans un esprit de reconnaissance. Merci Seigneur, parce que ce que tu me donnes, c'est bon, je l'apprécie et je t'en rends grâce. C'est cela. Or, si nous délaissons notre céleste espérance, et il nous restera que la terre, où tout passe, tout lasse et tout casse, et ça fera des hommes, eh bien, des hommes déçus. Vous savez, c'est notre foi qui fait la différence. Est-ce qu'il y aurait des chrétiens qui sont déçus par Dieu? C'est pas Dieu qui les a déçus. C'est eux qui ont manqué peut-être finalement de suivre et de se mettre au diapason avec le Seigneur et que leur cœur ne palpite plus avec celui de Dieu et que ses paroles ne résonnent plus dans leur au plus profond d'eux-mêmes, dans leur tréfonds. Et là, c'est quand même dangereux. Parce qu'on pourra toujours voir qu'il y a peut-être d'autres choses ailleurs, mais on se souvient que ça, c'est pour un temps, et ça disparaîtra. Vous savez que l'apôtre Paul avait certainement une expérience en la matière, parce qu'il dit ces mots, il déclare « Si nous espérons que dans les choses de cette terre seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Eh bien, lui, il avait tout compris. Et il ajoutera même à un moment donné « Eh bien, si nous avons le vêtement, et si nous avons la nourriture, cela nous suffit. » Il était bien modeste, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire la même chose, dans un monde de surabondance? Mais il a raison. Parce que si nous espérons, et si notre espérance ne va pas plus loin que notre consommation, nos supermarchés et nos sacs de provisions, écoutez, c'est bien, on est des hommes, hein. Mais quand même, vous savez, c'est lassant de faire les magasins, hein. Moi, je sais que mon épouse aime bien ça de temps en temps. Je l'accompagne. Mais je passe un petit peu les messieurs sont un peu comme ça. Hein. Quoi qu'il y a des messieurs qui aiment bien aussi. Hein. Mais bon, ça va. Quand tous les samedis, toute l'année, comme ça, 360, pas 360 samedis, mais 52 samedis, quand on fait que ça, c'est terrible. Hein. Voilà, le bruit, la musique, oh là là, c'est terrible. Enfin bon, je vous laisse avec ça, c'est pas grave. Troisième aspect, le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Premier point, nous l'avons vu tout à l'heure. Le deuxième point, il y a un instant, et voilà le troisième aspect où il est question. C'est le péché qui enténèbre. Et ce péché qui enténèbre est ici souligné sur ce point particulier, confirmant la position et le choix du cœur, la passion de l'argent qui aveugle et qui conduit aux maux qui affligent l'humanité. Quel regard! Parce qu'il y a notre cœur, mais il y a notre œil. Et notre œil, il nous fait voir tant de choses. Il nous montre les richesses et les bienfaits, le confort, le bien-être que nous procure l'argent. Et si nous étions, si nous faisions, si nous avions ceci et cela. C'est pour ça qu'il est question de l'œil. Si on n'avait pas la vue, eh bien, on ne se rendrait pas compte qu'il y a des choses qui brillent et qui clignotent autour de nous. Hein. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. C'est là le grand piège, c'est là la supercherie. Alors, c'est pour ça qu'il est parlé de l'œil dans cette chose. Et cet œil qui est mauvais et qui finalement s'accroche à des chimères et à des mirages, eh bien ça vous met l'état intérieur dans les ténèbres, avec un état d'esprit, avec une mentalité, avec toutes sortes de choses qui ressortent et qui n'est pas forcément eh bien, le meilleur de l'homme. Comment voyons-nous? Que regardons-nous? Quel est l'état, bon ou mauvais, de notre cœur, inspiré par nos yeux? Dieu nous a donné la vue. Et la vue nous fait marcher, hein, dans un sens ou d'un autre. Hein. Il y a toujours des choses qui fascinent. Et vous remarquerez que quand Jésus donne ce petit paragraphe de l'œil, du cœur, de la lumière et des ténèbres, c'est lié justement au problème matériel, à toute cette convoitise des hommes de l'argent, de la richesse, etc., des fausses valeurs. Et parce que ça passe par nos yeux, hein, quelque part. Alors, les choses sont dites, hein, naturellement, et nous nous apercevons qu'il en résultera toujours, en fonction de notre bonne santé de vue, ou de la mauvaise, une bonne ou une mauvaise mentalité. Quelquefois, on dit de certaines personnes, ils ont une mentalité détestable. Ils ne pensent qu'à l'argent. Toute leur vie, c'est se faire de l'argent. C'est mentir pour avoir de l'argent. C'est tromper, c'est monter sur les autres, c'est critiquer les autres, c'est ceci et cela. On leur dit, mais ils ont, écoutez, on dit une sale mentalité. Pourquoi une sale mentalité? Pour la bonne raison qu'ils sont mauvais à l'intérieur. Parce que ce n'est pas la lumière, mais c'est les ténèbres. Et ils se servent de leurs yeux, ils se servent de leur bouche, ils se servent de leurs oreilles. Tout est mauvais à ce moment-là. Si ton œil est en bon état, mais c'est formidable. Et un chrétien, normalement, doit avoir son œil en bon état. Et à ce moment-là, il va restituer ce que nous disions dernièrement dans un message. Eh bien, des fruits, mais des fruits qui sont bons. Des fruits qui vont faire du bien, des fruits qui s'appellent la bonté, qui s'appellent l'amour, qui s'appellent le partage, qui s'appellent tant de choses. Mais le reste, le contraire. Et tout ça, c'est l'expression d'un besoin profond de satisfaction avide. Je mets la main et je prends. Tant pis si je le prends à quelqu'un qu'il possède déjà. Ça ne sera plus à lui, ça sera à moi. Ou alors le contentement, qui fait que si notre œil, c'est-à-dire notre vue intérieure, est en état de péché ou son contraire, toutes les œuvres qui en découleront, les actions, les paroles, les comportements, eh bien seront justes ou iniques. C'est pour ça que Jésus dit, soit tu es en bonne santé intérieure par ton œil, ou tu es en mauvaise santé, ça peut être juste ou inique. Ça peut être pur. Ou ça peut être malhonnête, et je vous dirais en la matière qu'en ce qui concerne l'argent, ça peut être jusqu'à criminel. Ne nous faisons pas d'illusions. Hein. Ne nous faisons pas d'illusions. Mammon est un dieu qui tue. En conséquence, choisir la fausse sécurité de l'argent ou des richesses donne la preuve de la dramatique cécité des hommes si l'esprit qui est en lui, c'est-à-dire son âme, son œil, est éteint. Parce qu'il est question de lumière et de ténèbres. Alors on comprend mieux, quand c'est bien resitué dans le contexte du sermon sur la montagne, de tout cet ensemble de choses. Ça, ce n'est plus de la piété extérieure, comme le jeûne, comme la prière, et puis l'aumône, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez? Ce que l'on cache, ce trésor que l'on cache dans notre cœur. Si c'est un trésor qui vient de Dieu, il est pur, il est bon. Il fera du bien. Mais si c'est un autre, comme nous dit l'apôtre Paul, et je vais bientôt conclure, parce qu'il dit des choses quand même, et il dit ceci, à un moment donné, si donc, je l'ai cité, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais il ajoute, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, ça doit concerner des chrétiens, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ah, ça c'est le verdict, hein. C'est terrible, ça finit comme ça. Enfin, le dernier principe, c'est celui des impossibilités, je le lis. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je le répète, c'est le principe des impossibilités. C'est une autre tromperie que de croire que l'on peut concilier Dieu et Mammon. Dieu et l'amour de l'argent, les richesses, toutes sortes de choses semblables. Car, nous dit Jésus, dans cette petite phrase du verset 24, il y a une opposition irréductible entre la confiance placée dans les biens d'ici-bas et la confiance que nous mettons dans les biens d'en haut, c'est-à-dire dans les choses de la terre ou alors en Dieu. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui font l'impasse sur Dieu parce que croient-ils qu'ils ont trouvé mieux que Dieu. Ce qui est grave, c'est que quand ce sont des chrétiens qui commencent à faire du rétrogradage, après avoir reçu les trésors de Dieu, pour une raison ou pour une autre, hein, de dire, eh bien finalement, moi je pense que c'est encore mieux de revenir, mais ça c'est une trahison, c'est quelque chose de terrible. Le prophète Jérémie dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Et vous connaissez la suite, parce qu'il y a aussi l'autre version. C'est heureux l'homme qui met son espérance en Dieu. Et on sait ce qui est dit après. Vouloir conjuguer les deux revient à mettre Dieu en concurrence avec ce qui ne lui ressemble pas. D'ailleurs, Jésus l'a bien dit, hein. Un jour on est venu lui tendre un piège. Une pièce de monnaie. On lui dit, Lion, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, de qui est cette effigie? César. Eh bien, tu rends à César ce qui est à César et tu rends à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne doit pas être très content. Ben oui, c'est ça. Hein. Parce que là, on met en concurrence. Et c'est une tentation, c'est tenter Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je compte sur toi ou je compte sur mes moyens? Ainsi, parce que les hommes se précipitent les yeux fermés, c'est pourquoi il était question de l'œil tout à l'heure. Parce que ça, tout ça se tient dans l'exégèse du texte, quand on fait finalement l'étude. Pour nous dire que tant d'hommes se précipitent, les yeux fermés, vers ce qui est sans valeur réelle, et qu'ils sont devenus aveugles. C'est parce qu'ils sont aveugles, autrement ils couraient moins vite. Hein. Si vous disiez aux gens, regardez, vous voyez, vous voulez prendre... Vous voulez toute cette fortune, mais avec cette fortune, eh bien, toute votre famille va vous tourner le dos. Vous voulez acheter cette voiture, belle voiture, le rêve de votre vie, puis peut-être que vous allez prendre un mauvais virage et puis vous allez perdre la vie. C'est encore des choses, ça. Hein. Donc ils sont aveugles et ils se disent non, moi je garde, je prends et on verra bien. Mais ils sont aveugles surtout d'égoïsme. Ils sont aveugles de passion. Et Jésus nous dit, nous ne pouvons aller dans deux directions à la fois. C'est pas possible. Aucun esclave, nous laisse entendre Jésus, ne peut servir deux maîtres en même temps. Et cela pose la question de notre liberté de cœur. Je dis bien notre liberté de cœur à l'intérieur de nous-mêmes. Ou il aimera l'un, ou il méprisera l'autre. C'est pas possible. Alors esclave de quoi? Esclave de qui? De monde. Il faut faire un choix. C'est impossible autrement. Et notre Père Céleste, ou Mammon, c'est lui, c'est Dieu, ou Mammon, parce que là, Mammon est personnifié comme une divinité qu'on idolâtre. Et combien il y a d'hommes, de femmes qui fléchissent les genoux devant Baal, devant Mammon, à n'importe quel prix. Alors, qui est finalement mon Dieu? Est-ce que c'est celui qui est en majuscule ou c'est l'autre? Et il y a une prière de sagesse sur laquelle nous clôturons notre méditation. C'est dans le livre des Proverbes et j'aime bien la citer de temps à autre parce qu'elle est quand même formidable. Vous la connaissez. Il est dit ceci, je te demande deux choses. Proverbe 30, verset 16, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alors, Seigneur, moi je dirais merci, Seigneur, de ce que tu nous as laissé véritablement des trésors. Mais ce n'est pas tant les trésors sur la terre dont nous bénéficions par ta grâce et dont nous bénissons ton nom parce que nous en sommes finalement favorisés. Mais Seigneur, tu nous as montré encore la grande différence qu'il pouvait y avoir entre ces trésors et ces richesses sur la terre et ceux qui nous attendent pour l'éternité dans le ciel. Ouais. Seigneur, je te rends grâce de ce que ta parole est une sagesse, qui n'est pas la sagesse des hommes, mais qui est la sagesse de l'Esprit de Dieu. Tu veux nous enseigner, en effet, toutes ces choses pour que nous puissions bien vivre et que nous puissions un jour te voir face à face. Jette ton or dans les torrents et dans les ruisseaux. Vous connaissez hein, le livre de Job. Parce que Dieu sera ton or, il sera ton argent et il sera ta richesse. Alors quand on a ça, permettez-moi de vous dire qu'on a tout. Pas pour quelque temps, mais pour toujours. Que Dieu nous bénisse. On va prier maintenant quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous vivons dans un monde qui est épris, Seigneur, par toutes sortes de choses qu'il appelle des valeurs, mais qui ne sont pas des valeurs, qui passent, qui passeront, Seigneur, ou qui sont même déjà passées. Oui, Seigneur, tu as fait l'homme sur cette terre pour qu'il puisse jouir de tout ce que tu lui as en effet mis à disposition, mais sans y attacher son cœur. Merci Seigneur parce que tu nous as montré encore une fois de plus qu'il y avait une conduite particulière à observer. Lorsque nous voulons nous approcher de toi, et particulièrement dans cette belle démarche qui est celle de la prière et notamment du jeûne, savons Seigneur que ce sont des enseignements qui sont pleinement bibliques. Mais si tu nous en as parlé comme tu nous en as parlé encore, eh bien là dans ce message du sermon sur la montagne, c'est qu'il y a aussi en effet ces contrefaçons, où l'homme se met en avant et que Dieu disparaît, où tu nous montres que, Seigneur, ce n'est pas pour nous que nous jeûnons, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que véritablement, Seigneur, eh bien ton nom soit glorifié, et non pas pour que nous soyons glorifiés par les hommes en pensant et en laissant apparaître que nous serions presque des dieux. Seigneur, dans le nom de Jésus, voulons te rendre grâce. Merci, Seigneur, parce que savons, Père, que tous les trésors qui existent, eh bien, Seigneur, n'ont que de valeur, où toi tu les détiens, et que tu nous les donnes avec, en effet, dans ta grâce et dans ta bonté. Merci Seigneur parce que tu as voulu mettre en place, eh bien Seigneur, un jugement qui nous remet, Seigneur, devant un choix de savoir où est notre cœur, et là nous saurons où se positionne notre trésor. Puis tu veux que nous ayons des yeux bien ouverts, mais sur la vérité, sur les réalités, Seigneur, sur les vraies valeurs, sur les choses qui demeurent, qui sont en effet éternelles. Et puis, on ne peut pas courir après Dieu et puis après Mammon. Ce n'est pas possible. Nous devons faire là aussi un choix. Nous allons dans une direction, nous allons dans une autre. Nous servons Dieu ou nous ne le servons pas, mais nous servirons quelqu'un, peut-être certainement même à notre insu. Alors, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, à cause de ta bonté infinie, et enseigne-nous ta parole, Jésus, parce qu'elle est pleine de sagesse, et nous avons besoin de ta sagesse. Merci Jésus. Amen.